France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Donald Trump a choisi la confrontation. Il annonce la mise en place prochainement de l'urgence nationale pour financer le mur aux États-Unis, mur qu'il a promis à la frontière avec le Mexique. C'est une procédure exceptionnelle qui menace de provoquer une féroce bataille politico-judiciaire. L'urgence nationale donc, alors que le président américain a dans le même temps promulgué tout de même le compromis budgétaire obtenu entre les républicains et les démocrates au Congrès. Le shutdown, la paralysie budgétaire est donc éviter. Vladimir Poutine veut écraser les terroristes à Idlib en Syrie. Lors d'une réunion hier à Sotchi avec ses homologues turcs et iraniens, le président russe a également assuré que le retrait américain de Syrie était un point positif. Dans l'actualité également, Theresa May qui est un peu plus fragilisée par une nouvelle défaite au Parlement britannique hier. La première ministre proposait une motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne. Une motion rejetée par 303 voix contre 258. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est normalement prévue dans 6 semaines. Et puis en France, après le départ annoncé d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel, c'est son adjoint aux finances Nicolas Florian qui sera le candidat de la majorité élu lors du prochain Conseil municipal pour remplacer donc Alain Juppé. Dans le même temps, la première adjointe d'Alain Juppé, Virginie Calmel, s'annonce qu'elle quittera la politique pour retourner dans le secteur privé. Le militaire Chokri Wakrim, impliqué dans un contrat négocié par Alexandre Benalla avec un oligarque russe, ce militaire a démenti hier avoir déplacé un coffre-fort chez son ami juste avant une perquisition l'été dernier. Un peu plus tôt dans la journée, le quotidien Libération affirmait le contraire, expliquant justement qu'un coffre-fort avait disparu du domicile d'Alexandre Benalla. Enfin, notons ce matin cet appel à la désobéissance civile, sorte de grève chez les étudiants en France aujourd'hui vendredi. Ils rejoignent en fait le mouvement mondial des jeunes pour le climat, une action menée à se répéter et qui va se répéter tous les vendredis.
Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du Bel Air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis dans Co-Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio, tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr.
6h03, vous écoutez France Culture, nous sommes le vendredi 15 février, nous retrouvons Toufik Hakem pour parler bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil culturel, émission que vous pouvez écouter tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement gratuit au podcast. Aujourd'hui je reçois Florent Groisel et Youn Lokar, auteurs d'un projet ambitieux, une trilogie sur la Révolution française. Liberté, le premier tome de cette série intitulée Révolution, est sorti, édité par Actes Sud dans la collection L'An 2. Et il ressuscite les événements de 1789 dans une fresque qui n'oublie pas de représenter le peuple, des individus, des destins personnels et des petites histoires qui vont donner du sens à la grande histoire que nous connaissons. Le Réveil culturel est une émission coordonnée par Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Stéphane Desmonts.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Révolution, donc, c'est le titre de cette trilogie. Le premier tome vient de sortir, Liberté. Bonjour, merci d'être venu, Florent Groisel et Youn Lokar. D'abord, comment est née cette idée de raconter la Révolution? On va voir que vous la racontez à votre manière, c'est-à-dire en donnant à voir comment cet événement historique va être vécu par les gens du peuple, ça je le dis, mais pas seulement, aussi par des députés, par d'autres classes dirigeantes de la France de l'époque. Mais d'abord, vous êtes tous les deux jeunes, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cet épisode crucial de l'histoire française?
Ben nous, on a une passion, en tout cas un intérêt pour l'histoire sociale.
Yul Lokar.
Depuis longtemps. Et on a découvert très tard un intérêt pour la Révolution française. Et je pense que l'idée de faire une BD là-dessus, c'était justement, ça nous a interrogé d'être passé à côté aussi longtemps, quoi. Donc on a eu envie de revivifier un peu la période, lui redonner du souffle et donner envie de la lire et de l'étudier et d'essayer de la comprendre autrement que comme une image d'Épinal, quoi, comme on la voit la plupart du temps.
Parce Florent que cette grande histoire dont vous parliez en préambule, c'est vrai que la plupart d'entre nous la connaissent, mais je pense que un peu comme tout le monde, nous on l'a appris il y a longtemps, on en retient quelques grandes dates, quelques personnages, mais quand on s'est mis à se documenter, à lire les historiens, des travaux récents et moins récents, on s'est rendu compte qu'il y avait là une matière vraiment très très intéressante, très riche, beaucoup plus complexe que l'image qu'on en avait tous les deux. Et c'est cette envie aussi de reposer des images, un imaginaire sur cette période-là pour venir un peu battre en brèche ces gros clichés qu'on a sur une période qui est quand même très longue, très compliquée, en même temps excessivement d'actualité peut-être, en tout cas au vu de la production culturelle de ces derniers mois ou années.
Alors vous faites tout à quatre mains, hein, je veux dire, scénario et dessin. D'ailleurs, il y a des ruptures graphiques. On peut sentir qu'il y a deux dessinateurs pour cette histoire. Ça, par exemple, c'est assumé.
C'est totalement assumé, ouais. On voulait tous les deux dessiner.
Florent Croisel, oui.
On n'a pas cherché à trouver un style commun, mais on a quand même une manière de travailler qui fait que notre narration est construite en commun. Finalement, la réalisation des planches intervient vraiment à la toute fin du processus d'écriture et de réalisation des pages. Ce qui fait que, en fait, je pense que ces ruptures graphiques, même si elles existent et si on n'a pas cherché à les masquer, n'entravent pas tellement la lecture.
Yul Lokar ?
Ça vient vraiment d'une simple envie, quoi. On a vraiment essayé de... Une fois qu'on a admis qu'on avait cette envie de trouver comment lui donner forme et tout, mais... On a hésité, par exemple, à avoir recours à des subterfuges un peu scénaristiques pour expliquer qu'il y ait deux dessins différents. Au final, je pense qu'on a assumé ça complètement. Dans le titre Liberté, qui est le titre du premier tome, je pense qu'il y a aussi, pour nous, un espèce de mot d'ordre. On a vraiment travaillé comme ça. On s'est donné une grande liberté sur le format, sur le fait de dessiner tous les deux. Toute la réalisation du bouquin, je pense.
Et l'idée de raconter la Révolution, parce que c'est la Révolution française, mais vue du côté des députés, de l'aristocratie et du peuple oublié de tous, c'est-à-dire d'inventer des personnages de fiction, de nous projeter, nous, lecteurs, dans ces événements-là, c'est-à-dire on sait ce qui va advenir, mais on ne sait pas comment les gens que nous connaissons au début de votre histoire vont réagir à ces événements. Ça a été plutôt réfléchi en amont, scénarisé. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a eu toute une partie de documentation où vous êtes allé travailler. Je pense que vous avez eu l'avis des historiens, que vous êtes basé sur des études historiques. Mais à un moment où il fallait raconter une histoire avec des personnages de fiction, comment vous avez fait ?
Ben, on a commencé par, en effet, se documenter sérieusement et longuement. Et puis d'ailleurs, ça a continué tout au long de la réalisation et jusqu'au bout. Et enfin, on n'aura jamais épuisé cette partie-là du travail. Le fait d'inventer des personnages, ouais, ça, après, c'est notre... on invente des histoires, quoi, donc on n'est pas historien, ouais.
On vient avec aussi des envies de caractère qu'on a voulu absolument traiter. Je pense qu'on aurait fait n'importe quelle autre histoire contemporaine ou même un space opéra de science-fiction. On aurait parlé aussi de certains personnages, on aurait essayé de les caser dans cette histoire. Là, on s'est servi de ce décor de la Révolution française, qui n'est pas simplement un décor dans la bande dessinée, mais qui est aussi un contexte pour caser des caractères qu'on avait envie de, sur lesquels on avait envie d'écrire, et qui nous ont servi aussi à comprendre, enfin peut-être à faire comprendre, la Révolution de l'intérieur, et pas simplement en la survolant de grande date en grande date. Quand on lit une chronologie, on ne comprend pas la Révolution. On peut embrasser sa totalité, mais on ne comprend pas les raisons profondes qui animent les protagonistes.
Et en plus, on manque complètement de suspense, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est plonger les gens dans le bain. Et donc...
Non, le suspense est là, parce que ce que je disais, Lecard, on connaît très bien les événements qui ont fait la Révolution française, mais le suspense est situé au niveau des personnages, protagonistes, ouais. Comment ils vont réagir, comment ils vont voir les choses, eux qui ne savent pas ce qui va se passer plus tard.
Bah ouais, et dont nous non plus, puisque si on sait globalement, voilà, on a des grandes dates, des grands destins qu'on connaît bien, mais nous, en racontant l'histoire de personnages qu'on invente, bah ouais, on met le lecteur dans une position de... Et surtout, en fait, on essaye de montrer tous ces grands événements qu'on croit connaître, ou en tout cas dont on a une représentation assez précise, par les yeux de personnages qui n'en voient qu'un petit bout, peut-être ils étaient pas là.
Forcément.
Ils ont raté la prise de la Bastille, machin truc. Et donc, on voit aussi ces événements avec un prisme qui nous les fait redécouvrir, peut-être, quoi.
Florent Groisel disait, on a choisi des caractères. C'est-à-dire, l'idée, c'était quoi? C'était de représenter toutes les couches de la société française à ce moment précis?
Il y a une envie de se balader à travers toutes les couches, mais quand il parlait de caractères, il voulait dire des caractères qu'on aurait pu mettre en scène dans un space opéra ou autre part, c'est-à-dire des caractères qui sont pas forcément liés à la Révolution française, quoi, qui sont plus de notre intérêt, nous, pour des caractères de gens... Enfin, voilà, donc ça, on arrive plus dans notre petite cuisine de choses qu'on a envie de mettre en scène, de raconter. Ça parle pas que de la Révolution française. On a essayé de faire des personnages qui soient pas archétypaux.
C'est-à-dire comment la vie continuait pendant les grands événements et comment cette révolution va finir par changer quand même le destin de vos protagonistes.
Ouais, voilà. Et encore plusieurs... Enfin, cette révolution qui est en fait plusieurs révolutions, quoi. Donc ça va changer...
Ces personnages, en plus, ils avaient effectivement pas vocation à illustrer à tout prix tel ou tel aspect de l'événement. Ça aurait été trop facile, en fait, de choisir de construire des personnages en fonction des événements, parce que c'est justement contre ça qu'on essaye d'écrire, contre une vision qui est celle d'une histoire par la fin, une histoire un peu... à rebours, quoi, complètement téléologique, ou dans laquelle on, par exemple, on pourrait inventer des personnages parce qu'on sait très bien comment ils vont finir, alors que nous, on a essayé de faire des personnages dont on ne sait rien a priori, et eux-mêmes ne savent pas, et c'est ça qui va rendre l'histoire peut-être intéressante pour le lecteur, c'est que les personnages vivent les événements sans savoir comment ils vont finir.
Est-ce que vous vous mettez à la place des personnages?
Bah ouais. Ouais. On se met nous, et puis on met aussi des gens qu'on connaît, justement, des quand il parlait de caractère, Florent. On prend des personnages aussi qui viennent d'un tout autre cadre, on les plonge là-dedans, on se met assez bien d'accord sur comment ils sont, quoi.
Par exemple, s'il fallait donner des exemples?
Ben, ça peut être des connaissances à nous, des gens qu'on fréquente, qui nous intéressent. Ça peut être des personnalités aussi publiques, ou ça peut être des rockstars. Je sais pas, il y a tellement de... Quand je dis rockstar, c'est parce que la Révolution, c'est un moment où il y a des figures qui émergent comme ça et qui acquièrent une popularité énorme. Donc c'est pas aux heures du rock. Mais au final, ça fait écho à ça, quoi. Comment est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à fasciner le public et à être suivis?
Et c'est en fait un peu un mélange de tout ça tout le temps, quoi. On se met nous-mêmes beaucoup dans nos personnages. On pioche à droite à gauche des gens qui nous fascinent un peu et qu'on essaye de représenter.
Je me suis posé la question, est-ce que vous avez été aussi porté par tous les personnages de fiction nés dans la littérature française qui parlent de la Révolution?
Sur la Révolution en particulier, je sais pas, mais il y a vraiment une grande influence, ouais, du roman feuilleton, du roman historique.
J'ai l'impression qu'on n'a pas lu beaucoup de fiction sur la Révolution, de même qu'en fait il y a peu de films, de même qu'il y a quasiment aucune bande dessinée... sur l'événement lui-même, hormis des tentatives justement de faire vraiment des livres très didactiques sur l'enchaînement des événements, on va dire. Mais on s'est tenu quand même assez à l'écart de la fiction. Ouais.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Go.
Raconter la Révolution française en passant par la fiction, mais surtout en passant par la bande dessinée, c'est le projet de mes invités ce matin, Florent Groisel et Youn Lokar. Une trilogie avec ce premier tome qui vient de sortir chez Actes Sud, dans la collection L'An 2, Liberté. Alors, raconter la Révolution, c'est tout à la fois dessiner des foules, raconter des destins personnels, des retrouver dans ce cadre historique, restituer le Paris de l'époque, avec d'ailleurs beaucoup de doubles pages, doubles planches pour nous situer où on est. C'est une manière aussi de faire un voyage dans le temps de ce Paris-là.
Ouais, c'est ça. On avait vraiment envie de nous mettre,
Florent Groisel,
et de mettre les lecteurs dans nos traces, à la place de deux dessinateurs qui assistons à l'événement, un peu carnet à la main, quoi. C'était vraiment cette volonté d'avoir quelque chose qui s'approche presque du carnet de voyage, comme si on était parti dans le Paris révolutionnaire pour dessiner au coin des rues, sans tout comprendre, en saisissant quand même l'essentiel, et en ayant même aussi au niveau du dessin cette approche un peu du dessin d'observation, quelque chose d'un peu fragile, quoi, malgré le réalisme.
Et ça, c'est le grand plaisir de la BD, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé les bonnes docs et tout ça, on peut tout montrer, quoi. On peut montrer des immenses plans, des rues, des quais, du Palais Royal, et puis passer même 10 pages à se balader dans les jardins du Palais Royal en pleine fête et tout, des trucs qui au cinéma ou serait complètement impossible à montrer, ou alors coûterait je sais pas combien. Là, on est deux, et avec nos plumes et nos pinceaux, enfin là, c'est là-dessus, c'est vraiment l'éclat. Enfin, c'est pour ça que je pense que la bande dessinée se prête aussi à cette balade dans Paris.
Et c'est aussi l'idée d'inventer des personnages de fiction. S'il fallait parler des protagonistes principaux de ce premier tome qui est sorti, Liberté.
On a une galerie assez large. On voulait faire quelque chose qui soit choral, où on peut entrevoir...
C'est clairement une fresque, ça, on le sent dès le début. Ouais.
Ouais. Et on navigue vraiment, on change régulièrement de personnages et de points de vue sur les événements. Tous nos personnages vont devoir se situer, s'engager d'une manière ou d'une autre, par la force de l'événement. En même temps, on peut embrasser aussi les raisons de pas mal d'entre eux qui sont souvent contradictoires. Mmh. Tout le monde doit se repositionner en permanence. Et il y a un travail qui est extrêmement à la fois intéressant, et je pense pour les gens qui ont vécu la période, qui devait être particulièrement exténuant, quoi, de devoir sans cesse revoir leurs critères, leurs principes, leur position sur telle ou telle chose.
Et on a une sympathie, je pense, pour les certains de nos personnages qui sont pas du tout politisés, quoi, au sens conscient du terme, ni philosophes, et qui, en fait, là-dedans, les raisons qu'ils ont d'avancer, d'embrasser ou de refuser la révolution sont des raisons très personnelles et très prosaïques, voire romantiques, ou, enfin, voilà, c'est aussi des motivations qu'on pourrait qualifier impures, un peu. Par exemple, il y a un personnage qui au début, vraiment, trouve ridicule toute l'agitation de l'Assemblée nationale et avant ça des États généraux et tout ça, mais qui par une espèce de révélation qui tombe en amour d'une fille qu'il a à peine aperçue, embrasse complètement la cause révolutionnaire et qui finira, qui sait, par devenir peut-être le plus pur des révolutionnaires au final. Donc c'est toutes les raisons aussi d'entrer ou de sortir du mouvement.
Il y a bien sûr cette prouesse graphique, hein, parce que vous représentez le Paris de l'époque, vous représentez les tenues de l'époque, les personnages, c'est très documenté. Les scènes d'action sont particulièrement réussies, mais à la fin de ce premier tome, on se dit que si jamais c'est tellement réussi, c'est que vous avez trouvé quelque chose de fondamental, à savoir faire parler les gens et qui soit compréhensible aujourd'hui. C'est-à-dire que le parler de l'époque, on suppose qu'il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et pourtant, sans jouer avec ce décalage, vous réussissez à restituer l'époque avec les mots d'aujourd'hui. Comment vous avez travaillé les dialogues? Parce que c'est beaucoup de dialogues, une bande dessinée.
Sur le langage, alors, en fait, on a fait le choix de pas se mettre vraiment, d'essayer de reconstituer un langage de l'époque, parce que ça serait quand même assez indigeste, enfin... Nos personnages sont aussi, on essaye qu'ils soient à la fois qu'on comprenne bien leurs conditions d'existence, les trucs qui les poussent, qui les retiennent, qui sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, donc qu'on comprenne à la fois pourquoi est-ce que il se passe la révolution à ce moment-là, parmi ces gens-là, et à la fois on essaye, pour avoir de l'empathie, et on essaye de relier les lecteurs à eux, donc on... D'un côté, on a modifié un peu leur langage pour qu'à certains moments, peut-être, ils puissent se rapprocher de nous, ils puissent se mettre à notre niveau aussi et nous paraître plus familiers, quoi. Donc c'est tout un jeu entre l'évocation du langage de l'époque, des différents langages de l'époque, parce que comme on se balade entre les couches de la société, c'est très différent, quoi, les manières de s'exprimer. Un jeu entre ça et puis un peu le langage d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire un gamin des rues, par exemple, il y a une gamine qu'on montre beaucoup, Marie, qui est un personnage assez important, qui est vraiment du lumpen prolétariat, et qui parle peut-être de manière pas si différente que d'un gamin d'aujourd'hui, quoi, qui serait dans les mêmes conditions, parce que ça nous paraît plus, permettre une plus grande empathie, être plus proche, quoi.
Et au-delà du langage, il y a
Florent Groisel.
Il y a quand même des similitudes de situations. Je pense qu'au moment où on écrit, pour rendre les situations, les événements compréhensibles par les lecteurs d'aujourd'hui, on a toujours en tête des référents auxquels on va faire appel, quoi. Je pense à des trucs qu'on a tous vus à la télévision, la place Tahrir en pleine ébullition.
En Égypte, ouais.
Voilà, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient, mais la place de l'Hôtel de Ville... Pendant les 3-4 jours avant le 14 juillet, on s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose qui ressemblait à une capitale en pleine insurrection, avec des gens qui s'organisent pour faire à manger, pour soigner des blessés. Voilà, des espèces de ponts avec des situations qui sont contemporaines. Et sans vouloir forcer le trait à tout prix et rendre la chose trop contemporaine, ça peut aider... nous à créer et le lecteur à comprendre peut-être notre perception en tout cas des événements. Peut-être qu'on est loin en faisant ça de l'histoire historienne, mais en même temps c'est les clés de la fiction, c'est de faire passer quelque chose au lecteur.
Alors tous les événements historiques sont réels et bien documentés, ça on peut le dire, ce qui ne vous empêche pas, vous, de jouer avec des personnages de fiction et de vous imaginer à la place de tous ces protagonistes emportés par cette fièvre révolutionnaire.
Nous, on a nos personnages, et y compris certains, en fait, on a choisi certains personnages qui ont vraiment existé.
Bien sûr, parce que c'est un subtil mélange des deux.
Et en général, on en a choisi qui sont pas trop connus ou dont la biographie est un peu lacunaire, ce qui fait que
Ça vous laisse le temps, effectivement, d'imaginer et de mettre votre... Est-ce qu'on peut dire que vous avez interprété tous les personnages de cette fresque, de ce tome 1, de cette fresque annoncée Révolution ?
Ben, on doit se mettre un peu dans la peau à chaque fois. On doit jouer nos propres personnages. Ça, c'est un peu le... la manière de créer des personnages en bande dessinée, c'est vrai que on est un peu comme à la fois des metteurs en scène, mais aussi des comédiens dans un certain sens.
Mais au-delà, est-ce que parce que ça parle aussi de politique et d'idéologie, on parle de révolution et de la révolution française, est-ce que vos convictions, vos questionnements ont alimenté tous les personnages de votre bande dessinée?
Nous, nos convictions, nos engagements, ils sont quelque part là-dedans, quoi, c'est clair. On a essayé d'avoir, je pense qu'on a vraiment un respect profond de nos personnages, même ceux qui partagent pas nos engagements, parce qu'il y en a aussi, clairement, quoi.
Enfin, Florent Groisel et Youn Le Carre, comment vous êtes connus? Comment êtes-vous arrivés à travailler ensemble autour de ce projet Révolution? Je rappelle le titre de cette trilogie annoncée. Le premier tome vient de sortir.
Ben, on s'est connus quand on avait 16 ans, 15-16 ans, au lycée, quoi. On était dans le même lycée et on faisait à Lorient, au lycée du Puy-de-Dôme. Et on faisait de la BD déjà et c'est pratiquement comme ça qu'on s'est rapprochés au début, je dirais, quoi. C'est vraiment une amitié de BD.
Et puis à partir de là, on n'a pas arrêté de créer des petites bandes dessinées ensemble, de plus en plus ambitieuses, en fait.
Et autour de l'histoire, toujours, ou pas forcément?
Pas forcément. Disons qu'on... C'est pas un sujet qui nous obsède, mais on s'est rendu compte avec notre précédent livre Éloi, qui parlait aussi d'un sujet historique, que c'était un très
Quel
bon moyen.
Quel sujet, Éloi?
Disons que ça parle de comment la science s'est emparée de la notion de sauvage au 19e pour en faire un concept pseudo-scientifique,
justifiant la colonisation,
etc. C'est une forme d'engagement.
C'est tout à fait une forme d'engagement. Mais comme Révolution est une forme d'engagement, parce que je pense qu'on n'a pas vocation à juste retracer des événements vieux de 230 ans. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous.
D'autant plus que pour vous, en tout cas, c'est comme ça que se termine La Liberté, le premier tome de cette trilogie. Pour vous, la Révolution, cette Révolution française est toujours en cours.
En tout cas, on a quelques années encore de travail devant nous.
Mais la Révolution française, elle incarne, je trouve, un côté peut-être elle englobe un peu les autres, je trouve. Et puis
c'est la mère de toutes les révolutions,
disons que elle, je dirais pas que c'est, j'irais peut-être pas jusque là, mais elle les englobe, quoi. Disons, elle permet d'en parler, quoi. Elle permet de parler de toutes les révolutions, y compris, et elle est pas terminée dans le sens où elle était absolue, en fait. Elle peut se terminer qu'avec la fin de l'histoire, donc on sait bien que ça n'arrivera pas, donc elle sera jamais terminée, elle sera toujours d'actualité.
Et vous posez toujours la question: qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces gens-là, de ces protagonistes, si j'avais vécu cette période?
Oh non, je crois pas.
Oh si. Bon, on se retrouve pour la suite de ce débat à l'occasion de la sortie du tome 2. C'est prévu pour quand?
C'est prévu pour d'ici 2-3 ans, quoi.
Parce que c'est très consistant, hein. C'est vraiment 376 pages le premier tome. Je suppose que le total fera plus de 1000 pages, hein, la trilogie.
Ben ouais, c'est ça. On n'a pas envie de se presser. Je pense que on sent l'accueil qu'on a. Enfin, je pense que ce qui plaît aussi dans cette bande dessinée, c'est le temps qu'on a mis, quoi. On a mis 5 ans sur le premier tome. On a reculé devant rien, quoi. Et c'est ça qui fait aussi que c'est si touffu et tout ça.
Et vous faites tout, dessin, scénario, couleur aussi.
Ouais.
Bravo. Bravo, Groisel, Le Carre, pour Révolution, le premier tome, Liberté, qui vient de sortir chez Actes Sud. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vous en prendrez bien un petit peu plus ?
Chaque dimanche à midi, les bonnes choses par Caroline Brouet.
Tea time ce dimanche dans les bonnes choses. Le thé, de l'eau chaude avec un vague goût de foin ou à déguster comme un vin sans alcool. Alors pour en avoir le cœur net, nous avons invité un archéologue du thé et une sommelière de thé qui nous raconte d'où vient cette liqueur de 500 variétés et aux couleurs multiples et qui nous disent avec quoi on peut le manger. Sans compter les recettes sucrées de la chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic qui nous parle de sa cuisine au thé et la drôle de Madeleine de la romancière Amélie Nothomb.
Les bonnes choses, chaque dimanche à midi et sur franceculture.fr.
France Culture et le cinéma Majestique Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous mardi 19 février à 20h avec Founane de Denis Do. En 1975, Chou, une jeune mère cambodgienne, est séparée de son fils de 4 ans. Elle va lutter pour retrouver ce fils que le régime Khmer Rouge lui a arraché. Avec les voix de Louis Garrel et Bérénice Bejo. Projection en avant-première, suivie d'un débat avec le réalisateur, animé par Antoine Guillot. En partenariat avec Combini, plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les parlementaires britanniques accentuent le risque d'une sortie du Royaume-Uni sans accord de l'Union européenne. Ils désavouent leur premier ministre Theresa May. Ils ont voté hier contre un amendement qui l'autorise à renégocier le Brexit avec Bruxelles. Nous irons à Londres dans un instant. Nous ferons aussi un point sur la réunion organisée à Sotchi entre la Russie, la Turquie et l'Iran à propos de la Syrie. Force est de constater que les trois puissances ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Dans cette édition, nous nous demanderons aussi s'il est possible de poser une caméra dans une chambre d'un EHPAD pour espionner des salariés. C'est comme cela qu'une famille s'est rendue compte de la maltraitance envers leur mère, résidente dans une maison de retraite. Et puis une grève des étudiants pour le climat. Tous les vendredis depuis des semaines, elle a lieu en Australie, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Les jeunes Français les rejoignent aujourd'hui. Le Brexit approche dans 6 semaines maintenant et la première ministre britannique est un peu plus fragilisée. Theresa May a essuyé hier une nouvelle défaite au Parlement de Londres. Les députés britanniques ont rejeté la motion de stratégie de renégociation du Brexit avec Bruxelles. Le gouvernement assure qu'il continuera à travailler pour obtenir un accord remanié, mais l'hypothèse d'un Brexit dur se rapproche, Antoine Gignot.
Le mois dernier, Theresa May se targuait d'avoir réuni derrière elle une majorité substantielle et durable. Il aura fallu moins de 2 semaines pour que cette unité de façade se disloque. En votant contre la Première ministre, les députés eurosceptiques font passer un message essentiel. Ils sont prêts à entraîner le Royaume-Uni vers une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Certains, parce qu'ils considèrent que ce scénario catastrophe peut permettre d'arracher in extremis quelques concessions à Bruxelles. D'autres, parce qu'ils sont fermement persuadés que l'avenir du pays repose sur les échanges commerciaux avec l'Asie et les États-Unis. Dans les deux cas, ils ont sciemment savonné la planche déjà glissante sur laquelle marche la chef du gouvernement. Une dizaine de ministres menacent de démissionner s'ils n'obtiennent pas un report du Brexit. Difficile d'imaginer qu'une Theresa May affaiblie, acculée, privée de majorité, puisse désormais continuer à discuter sereinement avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ou avec Michel Barnier. Le négociateur de l'Union européenne a d'ailleurs déjà prévu de rencontrer la semaine prochaine un autre interlocuteur. Il va, selon le Guardian, s'entretenir avec Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes. Mais si la droite est en déconfiture, la gauche n'a pas non plus de véritable solution pour le Brexit. 41 députés viennent de voter contre l'avis de leur chef de file et demandent une prolongation des négociations. Plusieurs d'entre eux menacent aussi de quitter le parti si Corbyn ne se prononce pas clairement pour l'organisation d'un deuxième référendum.
Un compromis budgétaire a finalement été obtenu aux États-Unis entre démocrates et républicains pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire dans le pays. Donald Trump doit maintenant promulguer ce texte. Il annonce par ailleurs l'urgence nationale pour pouvoir financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Cette procédure exceptionnelle autorise le président à contourner le Congrès pour mobiliser des fonds. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani, ils ont conjointement reconnu hier que le retrait militaire américain de Syrie pouvait être une étape importante vers la pacification du pays. Réunis à Sotchi sur les bords de la mer Noire, ils entendent trouver des solutions pour résoudre la question syrienne, mais ils ont surtout affiché de réelles divergences de points de vue, Claude Bruyot.
Quand Vladimir Poutine affirme que les attaques terroristes dans la région d'Idlib ne peuvent plus rester impunies, Recep Erdogan, lui, s'empresse alors d'ajouter qu'il faut éviter une nouvelle crise humanitaire près de la frontière sud de la Turquie. Les blocages ne sont jamais très loin, le numéro 1 turc campe sur ses positions concernant les milices kurdes présentes à Manbij, au nord-est de la Syrie. Tant qu'elles existeront, l'intégrité du territoire de la Turquie ne sera pas assurée, affirme Erdogan. Il s'entend alors répondre par le président iranien Hassan Rouhani que les Kurdes font partie intégrante du peuple syrien. Placé dans la situation de médiateur, Vladimir Poutine a fait inscrire dans les conclusions du sommet que la stabilité précisément de cette région, qui se prépare au retrait américain, devra prendre en compte les intérêts turcs notamment, mais que la gestion ultime de ce territoire-là doit appartenir à Damas. Au final, les trois présidents se quittent en ayant chacun réaffirmé leur position. Pour les rapprochements de points de vue, il faudra attendre éventuellement Ankara et le prochain sommet tripartite au printemps.
Il a finalement reconnu avoir giflé, insulté une dame de 98 ans dont il avait la responsabilité. Un aide-soignant d'une maison de retraite d'Arcueil en région parisienne sera jugé cet après-midi en comparution immédiate. La famille de la résidente avait des soupçons depuis quelque temps. La direction de l'établissement n'ayant pas donné suite aux alertes, les enfants ont décidé d'installer une caméra dans la chambre de leur mère. Ils ont filmé donc l'impensable, des violences. Ils ont déposé plainte il y a une semaine. Mais la méthode interroge tout de même certains professionnels, Mathilde Dehimi.
Il ne blâme pas la famille, condamne fermement les maltraitances de l'aide-soignant, mais s'interroge sur la méthode employée, car filmer dans la chambre d'un résident n'est pas anodin pour Jean-Pierre Roulin, qui dirige trois EHPAD publics dans l'Essonne.
Un tel dispositif de surveillance enfreint un certain nombre de règles, et notamment le droit à l'image pour toutes les personnes qui sont susceptibles de pénétrer dans la chambre, les professionnels qui n'ont pas à être filmés à leur insu. C'est quand même quelque chose qui pourrait devenir préoccupant si ce genre de pratique se généralisait.
Se pose la question de considérer la chambre comme un lieu privatif mis à disposition par l'EHPAD qui dispose de son propre règlement ou comme un domicile, Thierry Amouroux du syndicat national professionnel infirmier.
Le pensionnaire d'un EHPAD est résident dans une chambre, donc c'est comme si c'était son domicile personnel. La grande majorité des soignants font de leur mieux, ils sont porteurs de valeurs, donc ça ne pose aucun problème. Il fallait avoir une preuve, ils l'ont eu de cette manière.
La CNIL rappelle qu'à domicile, toute personne y travaillant, la nounou ou du personnel médical doit être informée de la présence d'une caméra. En cas de suspicion de maltraitance dans un EHPAD, la famille peut aussi informer le conseil départemental et l'autorité régionale de santé.
Une nouvelle figure du mouvement des Gilets jaunes sera au tribunal correctionnel de Paris ce matin. Éric Drouet, dont l'interpellation le 2 janvier avait indigné à gauche comme à droite. Éric Drouet est jugé ce matin pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Il avait été arrêté près des Champs-Élysées à Paris au début de l'année. Après leurs homologues européens, des Belges, Allemands, Hollandais notamment, les jeunes Français se lancent dans la bataille du climat aujourd'hui. Collégiens, lycéens, étudiants lancent une grève du climat. Ils vont se réunir notamment en début d'après-midi devant le ministère de la Transition écologique. Ils ont voté l'idée d'une action simple, celui de la désobéissance civile. C'est une nouveauté pour ce mouvement. Voilà ce qu'explique Antoine Soulas, étudiant à l'école normale supérieure, à l'origine de la manifestation du jour.
En général, on l'associe à la non-violence. On s'est mis d'accord là-dessus en AG au sein du mouvement. Il y a un type de désobéissance très stratégique en général, c'est le blocage ou l'occupation qui permet, par exemple, d'arrêter des chantiers néfastes pour l'environnement ou des entreprises écocides. On peut bloquer des sièges d'entreprise, on peut stopper des chantiers comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou la forêt de Romainville au nord de Paris. Et ça permet à la fois de rassembler et d'empêcher un projet qui est néfaste pour l'environnement. C'est vrai que c'est notre marque de fabrique ici en France, en tout cas à Paris, d'avoir cette idée de désobéissance. Les Belges en parlent un peu dans leur texte d'appel. Mais ils en ont pas fait. Pour l'instant, ça se résume à des marches. Les autres pays également. Nous, on a voulu ça parce que vous connaissez peut-être le slogan « Les manifs, c'est sympa, mais ça suffira pas ». On voit que depuis septembre, on a des dizaines de milliers de gens dans les rues à chaque fois qu'il y a une marche pour le climat. Et on a un silence total de la part du gouvernement. On sent bien qu'il faut passer à d'autres actions.
Antoine Soulas, il répondait à Maxime Fayol. Eux manifestaient pour défendre leur quartier. Certains habitants de Long Island City, à New York, ont obtenu gain de cause. Le géant Amazon ne va pas y installer son nouveau siège. Il proposait 25 000 emplois à la clé pour en échange des milliards de dollars en avantages fiscaux. Ce n'était pas du goût de plusieurs élus et d'une partie de la population. Amazon renonce donc, Loïc Loury.
Le bras de fer n'aura duré que quelques semaines. À Long Island City, beaucoup s'inquiétaient de voir les prix flamber avec l'arrivée du géant. Sean tient un salon de coiffure à quelques dizaines de mètres de ce qui devait être le nouveau siège d'Amazon.
C'est vraiment fou, ces accords sans concertation ne marchent pas avec les New-Yorkais. On fait du bruit, on sait ce qui est bon pour le quartier, on vit ici, on travaille et on progresse ensemble. Alors on a dit à Amazon, venez discuter, et à la place, ils sont partis, donc bon.
Mais les habitants du quartier sont loin d'être unanimes, de nombreux commerçants attendait avec impatience cette nouvelle clientèle. Harry, notamment patron d'une épicerie, en a les larmes aux yeux.
Je ne me sens pas bien, c'est une mauvaise nouvelle pour mon commerce. Avec Amazon, le business aurait été bon. Tous ces gens n'ont pas compris qu'Amazon était une bonne nouvelle pour le développement du quartier.
Avec le retrait du géant, le spectre de la gentrification pourtant ne s'envole pas. Le phénomène est déjà très avancé et d'autres entreprises pourraient jeter leur dévolu sur Long Island City. C'est ce que dit Anna, une étudiante.
Je pense vraiment que c'est possible. Je viens de lire un article selon lequel cela pourrait être un message envoyé aux autres grandes compagnies. Mais non, je crois que c'est une vraie menace. Et c'est déjà arrivé dans d'autres quartiers. J'ai été témoin de cette gentrification. C'est insensé.
Et Amazon, dans l'immédiat, ne cherchera pas de nouvel emplacement.
Un soleil généreux est prévu sur la France métropolitaine ce vendredi sous des températures douces. Ce matin, il fait 4 degrés à Lille, 5 à Paris, 6 à Lyon, 12 degrés à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous nous rejoignez ce matin. Et Jacques, nous l'évoquions dans le journal, la jeunesse européenne se mobilise pour le climat ce vendredi, la jeunesse française également.
Oui, et là, il y a cette manifestation à Paris à 14h, vous en avez parlé. Clara, et là, à Paris, comme dans une quarantaine d'autres villes, des collectifs préparent la grève scolaire internationale du 15 mars. À l'appel de la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, devenue une icône de la lutte contre le changement climatique, Le Monde relaie ce mouvement de la jeunesse pour réclamer des actions en faveur du climat, en faveur du climat, donc un mouvement qui s'est installé dans la durée. Si la première revendication, s'engager dans la voie d'une réduction annuelle de 4% des émissions de gaz à effet de serre afin de s'aligner sur l'accord de Paris, n'obtient pas de réponse dans la semaine qui vient, les étudiants mèneront une action de désobéissance civile vendredi 22 février avant de soumettre une nouvelle requête et ainsi de suite. Une pétition des élèves des grandes écoles appelle à repenser le comportement écologique des entreprises dans lesquelles ils travailleront. Les jeunes prennent la mesure donc des enjeux de leur propre futur. Face à la catastrophe, l'échec n'est pas une option, indique leur appel. Les jeunes, ils traversent en tous sens avec les poètes. Le dernier livre de Marielle Massé, publié chez Verdier sous le titre « Nos cabanes ». En particulier, le collectif d'artistes Catastrophe, dont une tribune tout entière dirigée vers la possibilité joyeuse, énergique, grave aussi, de reprendre la main sur l'imagination du temps et les façons de se rapporter au futur, évoque des ruines sociales, des occupations de place, des potagers numériques, des marges insolentes et généreuses de nous. Je cite « Enfants, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente. On avait déjà décidé pour nous qu'il n'y avait plus rien à faire. Nous n'avions pas 20 ans, nous arrivions trop tard. Alors que faire ? La réponse est simple, renaître comme il nous plaira. Partout, nous nous réapproprions nos heures. D'où la métaphore symbolique, mais aussi concrète, des cabanes, celles des ZAD, des ronds-points, des jungles de migrants, des artistes et des poètes comme Olivier Cadiot. Je cite « 47% des vertébrés disparus en 10 ans. Faut qu'on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de branches de saule, des histoires à la place des choses. Faire des cabanes pour occuper le terrain et jardiner les possibles, pas pour prendre place, faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre. Et sans pour autant se contenter de peu ou s'accommoder de précarité de tous ordres, et encore moins les enchanter sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas, mais pour faire, c'est-à-dire braver à plusieurs, dans une joie très matérielle et surtout élargir les formes de vie et habiter cet élargissement. » Quand on construit une cabane avec des branches ou des troncs d'arbres, les problèmes arrivent au moment où il faut faire tenir ensemble deux morceaux de bois. Canifs et morceaux de corde n'y suffisent pas, il faut connaître des nœuds, savoir tailler des encoches symétriques. C'est que les assemblages, c'est le cœur technique de la charpente, souligne Arthur Lockman dans un beau livre publié chez Payot sous le titre « La vie solide, la charpente comme éthique du fer ». L'ex-étudiant en droit et philosophie qui a opté pour le métier de charpentier vante les mérites du système par excellence, le tenon mortaise, une pièce mâle terminée par un tenon qui s'enchasse dans une pièce femelle creusée d'une mortaise. En guise d'ouverture de ce récit d'apprentissage, un éloge du mot charpente, cette forte chair en pente, sonore et franche, qui s'est déclinée dans notre langue pour arriver à désigner l'ossature des corps ou l'organisation d'un raisonnement. Le charpentier travaille avec le bois car il offre des performances exceptionnelles au regard de son poids et de sa facilité de mise en œuvre. Après un aperçu des qualités propres à chaque essence, du sapin au chêne, depuis leurs conditions d'abattage, le rôle des cycles de la lune dans l'affaire, Arthur Lockman entre dans le dur, comment scier correctement, sans dévier ni multiplier les entailles avant d'assurer son plan de coupe. Faire en sorte, comme disent les anciens, que la scie trouve sa voie, car ce n'est pas la force qui coupe, mais le passage des dents sur la fibre. On y parvient en intégrant dans le geste non pas la seule main, mais tout l'ensemble qui part du bout de la lame jusqu'à l'épaule, en passant par le poignet et le coude, voire le positionnement des jambes, dont découle l'orientation du bassin et du buste par rapport à la coupe. Ici, comme dans bien d'autres pratiques, le bon geste de la main puise sa force dans le sol. On y revient. Et l'outil dans le prolongement du bon geste, quand on commence à sentir directement à travers lui, c'est une merveilleuse extension du monde qui s'opère avec un tel développement du toucher. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, au sommaire aujourd'hui, la crise politique en Haïti.
Oui, et la nouvelle de la nuit ou de la journée en Haïti est que le président Jovenel Moïse sort de son silence après 8 jours de manifestations et de violences quotidiennes dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes. Il refuse toute démission, annonce un paquet de mesures et veut éviter, je cite, la catastrophe et le désordre. Mais saura-t-il ou pourra-t-il rétablir la confiance ? On voit ça avec vous, Maître Éric Sauret, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Sitôt, vous êtes avocat et analyste politique de la vie en Haïti, qui vous a inspiré d'ailleurs récemment une pièce de théâtre, Claire Catherine et Défilé, les trois femmes les plus puissantes d'Haïti. Alors, pour ce qui est des événements du jour ou des derniers jours, 8 jours, au moins 7 morts, avec Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique latine, habitué, on pourrait dire, aux crises sociales à répétition. Certains ont fait un rapprochement, Éric Sauret, avec les émeutes de la fin de 2008. C'est vrai qu'il y a des manifestations contre la pauvreté, mais également contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance assez inédite cette fois ?
C'est inédit parce qu'il y a un cumul de causes. Effectivement, une demande de justice par rapport au Front Pétro-Caribéen, une demande de justice sociale, parce qu'il y a une misère atroce qui sévit en Haïti. Et puis, il y a une crise systémique. Et ce qui est nouveau, c'est que pour une fois, on a un président de la République qui semble ne pas avoir suffisamment de soutien au sein de la population. Parce que jusque-là, les présidents confrontés à une crise avaient, on va dire, un camp bien identifié et étaient soutenus. Là, on a un président qui semble être isolé et même après avoir parlé, parce qu'il a longtemps attendu, eh bien, on se demande est-ce qu'il a encore une solution pour son pays.
Oui, donc peut-être la nouveauté serait moins dans les motifs du mécontentement social que dans l'assise, on pourrait dire, et la qualité du pouvoir actuel. Quand même, si on parle des motifs, c'est assez étonnant la manière dont ça s'est passé, puisque toute la contestation, en tout cas celle qui nous occupe là, a commencé l'année dernière au cours de l'été avec des manifestations contre le prix du carburant pour en venir ensuite à une contestation de la corruption, cette affaire Petro-Caribé. Comment est-ce que ça s'est imbriqué ces deux affaires ?
Alors ça s'est imbriqué parce que à partir du moment où il y a eu une demande pour une baisse, ou en tout cas un contrôle des prix du carburant, eh bien le gouvernement en place n'en a pas tenu compte, donc les prix ont quand même augmenté. Et entre-temps, l'affaire de Petrocaribe est venue alimenter la crise, alimenter les demandes de justice, et face à cela, on a un gouvernement totalement sourd, et puis surtout une justice qui n'a pas été, qui n'est toujours pas en mesure de juger, en tout cas de mettre en œuvre l'action publique à l'encontre des personnes qui sont indexées. Ce qui fait que la population a le sentiment non seulement de ne pas être entendue dans ses demandes sociales, mais d'avoir un pouvoir eh bien, qui alimente et qui protège des personnes considérées comme étant corrompues, comme étant responsables de la dilapidation de plus de 2 milliards de dollars, une somme importante pour un pays pauvre comme Haïti et qui en aurait besoin pour des œuvres sociales.
2 milliards de dollars de ce fonds, donc Petrocaribe, qui était financé en partenariat à l'époque avec le Venezuela, et puis qui implique 15 personnes, dont des membres du gouvernement. Là encore, situation assez inédite quand même du point de vue du scandale politique, disons.
Alors, pas totalement inédit, parce que au début du XXe siècle, il y a eu un procès en Haïti qu'on a appelé le procès de la consolidation. Hein. C'est un procès où on avait jugé des hommes politiques très importants qui avaient volé des fonds appartenant à l'État. Donc, il n'y a aucune nouveauté. Il se trouve que certains d'entre eux sont devenus par la suite présidents d'Haïti, ce qui fait que beaucoup de gens se demandent quel serait l'aboutissement de la crise actuelle. La nouveauté, en tout cas, s'il y en a une, c'est que là, pour une fois, on indexe toutes les branches de l'élite haïtienne, la branche politique. On a quand même tous les présidents, tous les premiers ministres, beaucoup de ministres, beaucoup de secrétaires d'État, beaucoup de directeurs généraux qui sont impliqués et cités nommément. Et puis, bien entendu, la branche économique d'Haïti par le biais de la signature de contrats avec les différents responsables politiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que aucun des pouvoirs ou contre-pouvoirs n'a joué son rôle et qu'il y a une défaillance totale, une défaillance qui symbolise l'échec des élites haïtiennes.
Donc ça, c'est pour l'affaire Petrocaribe. Pour ce qui est de la mobilisation maintenant, elle semble assez protéiforme. On a vu certains partis politiques appelés à manifester, à commencer à partir du 7 février. Mais il y a également une forte présence de jeunes qui sont plutôt très déclassés hein, dans le système social haïtien, et une mobilisation qui apparaît spontanée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut déduire de cette, là encore, imbrication des acteurs? Est-ce qu'on a une manifestation qui est guidée ou plutôt spontanée?
Alors, les deux. Les deux, mon capitaine. Guidée, parce qu'il y a sans doute des acteurs politiques, parce qu'en Haïti, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une bataille sourde pour le partage des prébendes du pouvoir. Et puis, il y a une population qui, de toutes les façons, est désœuvrée, qui n'a pas d'emploi, qui n'en aura pas, même si le gouvernement en place tombe. Donc, une sorte de convergence des luttes. Et puis, vous avez un phénomène nouveau dans beaucoup de démocraties, le poids des réseaux sociaux. Et tout cela a été utilisé pour déstabiliser un pouvoir qui a perdu la main. On a entendu le président, le ton est ferme, donc il n'est pas serein, et puis surtout, il n'y a pas de proposition à part une demande de dialogue. Or, quand on est président de la République, eh bien, on ne propose pas de dialogue, en tout cas, on peut le faire, mais il faut proposer des mesures concrètes. Il en a parlé, mais il ne les a pas précisées. Il a dit que le Premier ministre allait les mettre en œuvre. Donc, on est face à une sorte d'incapacité du pouvoir en place à comprendre déjà la nature de la crise et surtout à voir que toute la population, ce qui est là aussi une nouveauté, toute la population, quelles que soient les classes sociales, eh bien, toute la population demande un vrai changement systémique. Là, c'est aussi une nouveauté.
Et alors, pour ce qui est du système, on va en dire un mot, mais Jovenel Moïse lui-même, ce président qu'on a beaucoup dit inexpérimenté, qui a 50 ans quand même, comment ça se fait qu'il ait attiré autant de critiques? Est-ce que c'est parce que, comme on dit, il a fait trop de bluff électoral? On a pu lire ça.
Il a fait beaucoup de promesses et vous savez, pour une fois aussi en politique en Haïti, les gens parlent de mensonges. Vous savez, Haïti est un pays de culture judéo-chrétienne et on n'aime pas le mensonge. Eh bien, en Haïti, c'est cela. Aujourd'hui, le président avait promis de l'électricité 24 heures sur 24. Les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai. Le président parle. Là, par exemple, il a dit dans son intervention, je parle à ceux qui ont la même origine sociale que moi. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Quand on est président, on est le président de tous les Haïtiens. Eh bien, ceux qui ont la même origine sociale que lui se rendent compte que depuis 2 ans, eh bien, il fait sans doute des choses, mais il n'y a aucune concrétisation dans la vie réelle des citoyens. Donc, on le prend pour un menteur, ce qui est grave, et du coup, il a perdu la confiance de ses concitoyens.
Cela dit, c'est intéressant, c'est cette question de l'origine sociale, puisque dans les manifestations, dans les papiers AFP, on pouvait beaucoup lire que les manifestants dénonçaient souvent un pouvoir qui était bourgeois. On pouvait lire aussi qu'il y a un moment, ils voulaient donner une leçon au secteur privé. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension de lutte sociale très forte quand même dans ces manifestations?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les citoyens considèrent que Jovenel Moïse est soutenu par une frange de la bourgeoisie d'Haïti. Et si c'est vrai, eh bien, après ce discours, je pense qu'il va perdre encore beaucoup de soutien parce qu'on ne parle pas aux gens de son origine sociale quand on est président de la République. Je crois que là, c'est sans doute son dernier mot.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait advenir dans les prochains jours? On a un peu l'impression de revivre une séquence qui s'est passée à la fin de l'année dernière, avec également des manifestations en novembre, comme aujourd'hui en plus, le rappel des ambassadeurs par un certain nombre de pays, une sorte de lâchage diplomatique, une intervention encore de Jovenel Moïse, et puis plus rien. Là, qu'est-ce qui pourrait advenir après ce discours ?
Ce qui pourrait advenir, c'est que là, on est dans une... Hier, c'était le 8e jour, aujourd'hui, c'est le 9e. Ça fait à peu près ce qu'on appelle une neuvaine. Et donc, il peut y avoir un dénouement ce week-end qui peut être difficile pour Jovenel Moïse, qu'on ne lui cède pas parce qu'il a été élu. Néanmoins, après son discours, on n'a pas le sentiment qu'il contrôle encore la situation. Ce qui pourrait advenir, c'est une transition, malheureusement, pour Haïti, une transition prévue suivant les règles constitutionnelles. Théoriquement, c'est le Premier ministre qui devrait assurer la transition si jamais le président devait partir, mais il n'est pas dit que cette solution là soit acceptée. Si elle ne l'est pas, il peut y avoir une solution traditionnelle, c'est-à-dire le recours à un juge de la Cour de cassation. Les acteurs politiques haïtiens trouveront sans doute une solution. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que l'appel au dialogue n'est pas suffisant. Le président a beaucoup tardé pour parler. Il a parlé et les éléments qui remontent du terrain consistent à dire qu'il n'a rien dit.
Eh bien, avoir la solidité des institutions maintenant, en tout cas, merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Maître Éric Sorel. Je rappelle le titre de votre pièce, Claire Catherine et Défilé, les trois femmes les plus puissantes d'Haïti. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et à 6h57 sur France Culture, nous sommes en bonne santé.
Pour
accueillir les
bonjour
matins.
Bonjour, bonjour à
et
tous.
Guillaume Erner, bonjour, bonjour. Et en bonne santé et heureux puisqu'il y a une liberté d'expression 2.0.
Alors plus exactement, des questions absolument inédites au sujet de la liberté d'expression, des questions qui ne se posaient pas avant les réseaux sociaux. Un excellent exemple est fourni par le problème de l'anonymat. Le gouvernement souhaite l'encadrer, d'où cette interrogation que personne ne se posait avant l'existence d'Internet. L'anonymat fait-il partie de la liberté d'expression ? Alors évidemment, c'est une interrogation un peu étrange lorsque l'on songe aux milliers de trolls qui vivent sur les réseaux, dépensent leur existence à envoyer des insultes et d'autres joyeusetés dans le cyberespace. L'examen des propos de ces trolls donne évidemment envie de les obliger à troller sous leur vrai nom, avec comme conséquence probable l'arrêt du torrent de boue qu'ils déversent en permanence dans les tuyaux. Oui, mais peut-on tirer argument des turpitudes des uns pour légiférer sur la totalité? Parce qu'après tout, s'ils mésusent de ce droit, eh bien c'est en quelque sorte leur cas, mais ça n'est pas nécessairement le cas de tous. Alors, il y a heureusement des lois contre les menaces et les propos racistes, mais pour le reste, est-ce parce qu'il existe des trolls qu'il faut empêcher toute forme d'anonymat, parce qu'on peut avoir une multitude d'autres raisons, des bonnes raisons pour être anonyme, composer par exemple avec une personne soumise au devoir de réserve jusqu'au lanceur d'alerte. D'autant qu'il existe d'autres activités démocratiques où l'anonymat est licite, voire même obligatoire. L'isoloir est une forme d'anonymat obligatoire. Or, rien n'indique que la liberté d'expression implique de tout dire, à commencer par son nom. Après tout, on peut très bien vouloir participer à la conversation publique, par exemple au grand débat, en conservant son anonymat. D'ailleurs, si le site du grand débat imposait aux citoyens de révéler leur identité, il est probable que beaucoup moins contribueraient. Voilà pourquoi il est bien possible qu'en ouvrant de nouveaux territoires à la liberté d'expression, on entérine également de nouveaux droits, comme celui d'avoir une voix sans avoir de visage.